Dali, Van Gogh, Goya, Dürer, voyage en terre de couleur. Une émission réalisée par Corinne L, un programme Maurice Clément Fèvre. Notre artiste a enfin fait son entrée au salon officiel depuis 1865, mais sans la notoriété tant attendue. Sa palette et son chevalet installés dans son atelier de la rue de Laval, rendons-nous en terre parisienne l'observer tout à son travail. Bienvenue chez Hilaire Germain Edgar Degas. Le 16 février 69, Achille, son frère, raconte à la famille Musson de la Nouvelle-Orléans.
Edgar est venu avec moi à Bruxelles. Il a fait connaissance de M. Van Praet, ministre du roi, qui avait acheté un de ses tableaux, et il s'est vu dans la galerie, une des plus célèbres d'Europe. Cela lui a fait un certain plaisir, comme bien vous pensez, et lui a donné enfin quelque confiance en lui et son talent qui est réel. Il en a vendu deux autres pendant son séjour à Bruxelles, et un marchand de tableaux très connu, le peintre Arthur Stevens, lui a proposé un contrat à raison de 12 000 francs par an.
Mais Degas ne donnera pas de suite à ce marché.
Nouvelle rencontre.
À la fin des années 60, par l'intermédiaire de Manet, il fait la connaissance du clan Morisot. Il croise Berthe Morisot, qui deviendra quelques années plus tard la belle-sœur de Manet. Invité dans cette famille bourgeoise, férue de peinture, il va brosser le portrait au pastel au printemps 69 de Madame Théodore Gobillard, née Yves Morisot, sœur de Berthe. C'est une toile qui est au musée d'art de New York. Yves rend visite à sa famille à Paris avant de retrouver son mari, muté dans le sud-ouest à Mirande. Le passage de Degas dans la maison des Morisot alimente bien des conversations, que ce soit de la part de Madame Morisot ou de Berthe, qui écrit à sa sœur Edma. « Monsieur Degas a fait un croquis d'Yves que je trouve médiocre. Il a bavardé tout en le faisant, s'est moqué de mon ami Fantin, nous disant qu'il ferait bien d'aller puiser de nouvelles forces dans les bras de l'amour, parce que pour le moment, la peinture ne lui suffisait plus. Il m'a parlé de Puvis et l'a comparé au condor du Jardin des Plantes. Les amis en question ne sont rien moins que les peintres Fantin-Latour et Puvis de Chavannes, convié régulièrement chez les Morisot. Dans cette maisonnée en perpétuelle effervescence, Degas réussit quand même à trouver le temps nécessaire pour exécuter ses esquisses et son portrait. Madame Morisot consigne fin juin. Il m'a demandé une heure ou deux dans la journée. Il est venu déjeuner et il est resté toute la journée. Il paraissait content de ce qu'il faisait et fâché de s'en séparer. Le travail lui est réellement facile, car tout cela a eu lieu au milieu des visites et des adieux qui n'ont cessé ces deux jours-ci. Après les dernières séances de pause fin juin, dues au départ du modèle, Edgar termine en atelier le tableau fin juillet. Puis, il passe l'été en Normandie, à Étretat, Villers-sur-Mer, pour revenir avec des paysages plein la tête, exécutés ensuite au pastel dans son atelier. Au bord de la mer, tout en ocre jaune et bleu, se trouve à Orsay. Il en profite pour rendre visite à Manet, en séjour à Boulogne-sur-Mer, qui lui réclamait deux livres de Baudelaire prêtés.
Fâcherie à l'horizon.
Une parole blessante, un geste malvenu, un petit rien, peut réduire en cendres la sympathie entre Manet et Degas. Le geste assassin arrive cette année, entraînant par la suite une mésentente entre eux. Une de plus, me direz-vous. À l'origine, Edgar brosse le tableau à l'huile, Monsieur et Madame Édouard Manet, quitte à Kyushu Municipal Museum of Art, au Japon. Il dépeint Manet chez lui, rue Saint-Pétersbourg, affalé dans un canapé, écoutant sa femme jouant du piano. Madame Manet tourne le dos à son mari et nous est représentée de profil. Malheureusement, Édouard, ne trouvant pas sa femme avantagée par Edgar, coupe la toile dans sa hauteur, amputant ainsi une partie du visage, les avant-bras et le piano. La toile entaillée restera alors pendant des années dans l'atelier de Degas. Lors d'une visite, le marchand d'art Ambroise Vollard questionne Degas sur l'origine du méfait.
« Dire que c'est Manet qui a fait cela. Il trouvait que Madame Manet faisait mal. » le coup que cela m'a fait quand j'ai revu mon étude chez Manet. Je suis parti sans lui dire au revoir, en emportant mon tableau. Rentré chez moi, je décrochai une petite nature morte qu'il m'avait donnée. « Monsieur, lui écrivis-je, je vous renvoie vos prunes. »
Vollard lui demande ensuite s'il s'est remis avec Manet.
« Comment voulez-vous que l'on puisse rester mal avec Manet ? Seulement il avait déjà vendu les prunes. Ce qu'elle était jolie, cette petite toile. Je voulais, comme je vous le disais, rétablir Madame Manet pour lui rendre son portrait, mais à force de remettre lendemain, c'est resté comme ça. »
Et c'est resté comme ça pendant près de 30 ans, avant que Degas ne rajoute un morceau de toile apprêté au tableau. Puis, Vollard l'interroge pour savoir si Manet aurait pu tout aussi bien découper un Delacroix ou un Ingres. La réponse d'Edgar ne se fait pas attendre.
« Oui, un Delacroix ou un Ingres, il en aurait été bien capable, l'animal. Mais s'il avait fait cela, je crois que je ne l'aurais plus revu. »
Une dernière apparition.
Le 17 et 18 mars 70 a lieu la vente de la collection du prince Grégoire Souzzo décédé, que son père connaissait. Degas retourne au salon du 1er mai 70 pour la dernière fois. Il y expose le portrait de Madame Camus en rouge et Madame Théodore Gobillard. Duré, critique d'art, loue Degas dans les lecteurs libres du 2 mai. Et le 8 mai, Duranty commente Madame Camus dans le Paris Journal. Puis, le 17 mai, Champfleury, critique et écrivain, fait part à l'artiste qui lui rendra visite à 10 heures. Comme nous le notons, les journalistes s'intéressent à Degas. Ce dernier, mécontent, a écrit une lettre ouverte à messieurs les jurés du salon dans le Paris Journal du 12 avril. Il y décrit les améliorations à apporter en matière d'accrochage sur deux rangs, d'espace entre les toiles de 20 à 30 cm, du mélange des genres, tableaux et dessins, et de la possibilité de reprendre ses œuvres quand on le souhaite. En effet, en éternel insatisfait, il n'hésite pas à retoucher certaines toiles si besoin est. Selon lui, les conditions d'exposition ne sont pas réunies pour mettre en valeur les tableaux, ceci expliquant le peu de succès rencontré au salon. De ce fait, à partir de 1870, refusant les diktats du salon officiel, il s'en éloigne définitivement.
Un tour à l'hippodrome.
Il est un sujet cher à Degas qu'il va brosser des années 60 jusqu'à la fin 90, soit pendant près de 30 ans. C'est celui des courses. Degas s'éloigne du portrait pour commencer à saisir les scènes de la vie quotidienne de ses semblables. Cette série scrute le jockey et son cheval dans tous leurs mouvements. L'homme fait corps avec l'animal. Edgar parcourt les champs de course, carnet de croquis et jumelles à la main. Il possède dans son atelier, suspendu au bout d'une ficelle, un petit cheval de bois qui lui sert de modèle.
Comment pourrait-on faire tourner, comme on veut, dans la lumière, des chevaux vrais ?
Du côté du musée.
Course de gentleman avant le départ est une toile qui sera reprise dans les années 80 au musée d'Orsay. En 66, il brosse scène de steeplechase, National Gallery of Art, Washington. Croquis, esquisses de jockey, chevaux, hantent ses carnets quand il arpente le provincial champ de course d'Argentan, à 15 km de la propriété de son ami Paul Valpinson. D'ailleurs, il l'immortalise en 69 avec sa femme, son fils et la nourrice dans un cabriolet hippomobile, un Tilbury, dans « Aux courses en province », musée des Beaux-Arts de Boston. Le baryton Jean-Baptiste Faure en fit l'acquisition. Ses études à l'essence concernent non seulement le monde hippique, mais aussi les spectateurs, des femmes pimpantes, chics, assises sur les pelouses, les jumelles à la main. Le défilé, dit aussi « chevaux de course devant les tribunes », est une peinture à l'essence du musée d'Orsay. Elle fait partie des premières scènes sur ce thème. Degas s'inspira d'artistes comme Géricault ou Meissonnier, ayant déjà traité de représentations de course. Ce tableau fut aussi dans la collection de Faure en 73-74, mais il fut acheté par Durand-Ruel en 1893, avant de se retrouver dans la collection du comte Isaac de Camondeau jusqu'au legs de 1911 aux musées nationaux et attributions au Louvre. La scène ensoleillée présente au premier plan les cavaliers au pas, aux ombres fortement marquées au sol. L'atmosphère semble calme, hormis un cheval se cabrant dans le lointain, prémisse d'un départ imminent. La construction du tableau est tel que les lignes de fuite et diagonales tendent vers un même point, le dernier cavalier, justement. Nous pourrions encore citer chevaux de course à Longchamp, puis les jockeys, l'entraînement, jockeys blessés, blanchisseuses et chevaux, fusains et pastels au musée des Beaux-Arts de Lausanne. Mais les chevaux et cavaliers de cette dernière période ne sont plus empreints de réalisme. Les formes deviennent imprécises, loin de la parfaite anatomie. La silhouette est simplifiée, voire déformée, les couleurs fantaisistes. Le réalisme des détails n'est plus la préoccupation première du peintre. Seul le mouvement compte. Revenons maintenant à notre année 1870 et ses tragiques événements.
Quel impact sur Degas ?
En juillet 70, Napoléon III, redoutant une intervention de Bismarck, déclare imprudemment la guerre à la Prusse. La bataille du 1er septembre entraîne la défaite de Napoléon III, la chute de l'Empire et la proclamation de la Troisième République du 4 septembre 70. Degas est à cette période chez les Valpinson au Mini-Lubert quand il apprend la capitulation. Il retourne alors à Paris, mettre à l'abri ses tableaux et s'engage dans la garde nationale en tant que volontaire, de même que Manet. Début octobre, il est affecté aux fortifications nord du bois de Vincennes, bastion 12. Il se retrouve sous les ordres d'Henri Roire, un ancien camarade du lycée Louis le Grand, avec lequel il renoue. Lors des séances de tir, il rate la cible. On découvre alors que sa vision de l'œil droit est très faible et qu'il ne peut être versé dans l'infanterie. Il est alors affecté dans l'artillerie avec Manet en tant que canonnier volontaire dans une batterie durant l'hiver du siège de Paris. Si certains de ses amis peintres sont partis en Angleterre en attendant un retour au calme, d'autres sont au combat et y laissent leur vie. Degas est très affecté par la perte de ses camarades peintres et sculpteurs, tels Frédéric Basile, disparaissant à Beaune-la-Rolande près d'Orléans à 29 ans, ou du sculpteur Joseph Cuvelier, décédé le 21 octobre 70 à Malmaison. Quand Jeanne Tissot lui déclare qu'il a esquissé un dessin de son ami Cuvelier mourant, Edgar s'emporte.
« Vous auriez mieux fait de le ramasser !»
Évidemment, une brouille passagère va s'en suivre. Dans une lettre de Madame Morisot à Yves, sa fille, elle rapporte « Monsieur Degas est tellement impressionné de la mort d'un de ses amis cuveliers sculpteurs qu'il était impossible. Ils ont failli se prendre aux cheveux avec Manet sur les moyens de défense et d'emploi des gardes nationaux, quoique voulant chacun aller jusqu'à la mort pour sauver le pays. Monsieur Degas s'est mis dans les artilleurs et il n'a pas encore entendu partir un canon à ce qu'il dit. Il est à la recherche de ce bruit, voulant savoir s'il supportera les détonations des pièces. » En ce début mars, son frère Achille, qui a quitté la Nouvelle-Orléans pour venir combattre, se trouve sur la Loire. Degas est présent ensuite aux manifestations à Paris. Mais dès la mise en place de la Commune de Paris, gouvernement insurrectionnel du 18 mars au 27 mai 71, il se retire bien vite des insurgés et va séjourner à la mi-mars chez les Valpinson en Normandie. Il brosse alors le portrait d'Hortense Valpinson, Institut de l'art Minneapolis. Non sans mal, du fait des moyens du bord, pas de toile sous la main, et un petit modèle facétieux qui mangeait les quartiers de pommes, entraînant agacement et colère chez Degas. Néanmoins, il continuera d'estimer Hortense jeune fille, et en sculptera un buste imparfaitement fondu, dont il ne reste que des descriptions et un croquis sur un courrier. Edgar n'oublie pas ses amis d'infortune rencontrés pendant la guerre, puisqu'il dépeint les combattants dans une œuvre intitulée « Gentot, l'inné et l'aîné » à Orsay. Trois portraits d'anciens combattants sont attablés à la fin d'un repas, au regard pensif. Ils sont dépeints dans des tons noirs, bruns et ocre foncé. Notre voyage en terre de couleur se termine sur un Paris à feu et à sang. Je vous invite à nous retrouver très bientôt sur cette même antenne, vers des jours meilleurs pour Degas.